Auditeurs.
Besoin d'une solution pour simplifier la gestion de vos rendez-vous médicaux et paramédicaux? Découvrez Clicodoc, l'application locale qui réinvente l'accès aux soins chez les professionnels de santé. Avec près de 700 000 utilisateurs et des équipes dédiées en Martinique et Guadeloupe, Clicodoc est la référence. Patients et professionnels de santé, profitez d'un outil conçu pour répondre à vos besoins et faciliter vos rendez-vous. Alors simplifiez-vous la vie et connectez-vous vite sur notre site web ou appli mobile, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Clicodoc, du clic au doc. C-L-I-K-O-D-O-C.
Et tout de suite, on retrouve notre journaliste Dominique Géraud pour le RCI Soir. Bonsoir Dominique.
Bonsoir. Le silo à grains construit en 2017 sur un terrain agricole à Ducos devra être détruit. La Cour de cassation a confirmé une décision prise par la Cour d'appel de Martinique. Une unité nautique inaugurée ce matin à Saint-Pierre. Les gendarmes ont fait l'acquisition d'un bateau avec notamment en ligne de mire les candidats à l'immigration clandestine. Un mouvement de grève suspendu en janvier dernier au collège Paul Saint-Fort du Robert réactivé aujourd'hui. Les agents de la CTM déplorent que les travaux promis n'aient toujours pas été réalisés. Une coulée de boue mortelle a frappé la nuit dernière dans un village de l'Aisne suite aux violents orages qui ont survolé la Bourgogne. Une femme de 57 ans a trouvé la mort. Carla Bruni, auditionnée par l'Office central de lutte contre la corruption, l'ex-première dame a été entendue dans l'affaire du financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Le dessinateur du Marsupilami, invité ce soir de À la page. Notre émission littéraire reçoit aujourd'hui quatre auteurs de bande dessinée, dont le Belge Baptême, le successeur de Franquin. Rendez-vous avec Erika Govindorazo et ses invités à 18h30. L'arrivée du quintet disputé sur l'hippodrome de Chantilly, 10, 13, 3, 12, 7. Le silo à grains installé en 2017 au quartier La Manche à Ducos devra donc être détruit. La Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel de la Martinique rendu en décembre 2022. Plusieurs associations écologistes étaient montées au créneau pour dénoncer l'installation de cette structure d'une vingtaine de mètres de hauteur au beau milieu de terres agricoles. Si le maire de Ducos, Charles-André Mancé, avait été relaxé, les autres prévenus, auteurs ou complices de cette construction sans permis, avaient tous été condamnés. Des amendes allant de 2000 euros pour Vladimir Ayotte, 5000 euros pour Ange Milia, 15 000 d'euros d'amende pour la société Madivial ou encore 50 000 d'euros contre la société AgriProd. Les pourvois formulés par les prévenus et par les parties civiles ont été rejetés en cassation et la destruction du silo devra donc être tout de même réalisée. Pierre Gallet de Saint-Aurin, administrateur de la Sopamar et de l'association France Nature Environnement, a réagi à cette décision au micro de Kathleen Bilas-Copette.
La décision la plus importante a été prise par la Cour d'appel qui dit que la construction est illégale, qui prend acte de ce que le permis de construire qui avait été délivré de complaisance a été annulé, que le plan d'occupation des sols qui avait été modifié par M. Mancé, alors maire de Ducos, pour essayer de rendre légal le permis de construire a été annulé aussi. La Cour de cassation dit que les critiques qui sont faites contre la décision de la Cour d'appel par les prévenus ne sont pas recevables. Les prévenus sont condamnés à démolir la construction illégale et à remettre les lieux en état. C'est une victoire bien amère. Les terrains sont consommés. Il s'agit de la construction d'une unité de mise en sachet d'aliments pour bétail qui n'a pas sa place dans une zone agricole, qu'il n'y a pas de protection contre l'incendie, qu'il y a des allers et retours de camions incessants pour pouvoir remplir les silos ou pour pouvoir vendre les produits. Tout ça, ça ne se fait pas dans une zone agricole. Les prévenus ont entendu gagner de l'argent en ne dépensant pas de sous pour s'installer dans une zone industrielle, en consommant de l'espace naturel et agricole, en mettant en danger les environs et leurs clients. Il faut que ça cesse, il faut démolir.
Pierre Gallet de Saint-Aurin, administrateur de l'Assopamar et de France Nature Environnement, avec Kathleen Bilas-Copette. Après les Anses d'Arlée il y a un mois et avant une future installation en août au Carbet, la gendarmerie de Martinique poursuit le rétablissement dans le Nord Caraïbe d'un service de proximité. Une unité nautique est désormais installée à Saint-Pierre. L'acquisition d'une embarcation va permettre aux militaires titulaires du permis nautique militaire d'effectuer des patrouilles le long du littoral, dans leur ligne de mire les trafics, notamment en matière d'immigration clandestine. De quoi rassurer le maire de Saint-Pierre qui a vu se raréfier les représentations de l'État dans ce secteur, et ce depuis plusieurs années. Christian Raffa est au micro de Jessica Dantin.
C'est tout d'abord un signal de réinvestissement du territoire par l'État, qui malheureusement, pour des raisons de budgétaires ou autres, avait, il y a une quinzaine d'années, retiré la sous-préfecture, la douane. Nous avons perdu aussi un peu plus récemment la trésorerie. Donc là, l'État constate qu'il y a un besoin réel. Ça n'est pas juste une question de principe ou d'image. Nous sommes confrontés, et c'est l'objet de cette brigade nautique, à être une porte d'entrée de toutes sortes de trafics potentiels par la mer. Nous avons une superbe rade, mais qui, malheureusement, n'est pas forcément très sécurisée.
Le maire de Saint-Pierre, Christian Raffa. Au collège Paul Saint-Fort du Robert, les cours n'ont pas pu être dispensés ce jeudi. Les agents de la collectivité territoriale se sont mobilisés pour dénoncer le non-respect d'un accord datant du 19 janvier 2024. Ce jour-là, un mouvement de grève avait été suspendu suite aux promesses de la CTM de réaliser toute une série de travaux. Un plan de rénovation qui comprenait le remplacement des couvertures, la réfection des charpentes, des vestiaires sanitaires, de toutes les installations électriques et des travaux de peinture. La totalité des travaux n'ayant toujours pas été livrée, le mouvement de grève a donc été réactivé aujourd'hui. De son côté, la collectivité explique par voie de communiqué que ce sont les blocages du jour qui ont empêché aux entreprises choisies d'accéder au chantier. Nadia Kusaden, la vice-présidente de la commission urgence démographique, éducation, jeunesse et formation à la CTM, a fait le point au téléphone de Kathleen Bilas-Copette.
Je pense qu'il s'agit de mécontentement, de peut-être même d'une impatience, hein, qui peut se comprendre, parce que je sais que pour avoir visité les locaux en juillet août dernier, que les travaux étaient déjà prévus. Bon, maintenant, ça peut paraître long, mais cette lenteur, c'est certainement parce que nous avons plusieurs chantiers en cours et que, bon, parfois, ça peut prendre plus de temps que prévu. Mais néanmoins, nous mettons tout en œuvre, et ça, je veux le garantir auprès des agents de ce collège, nous mettons tout en œuvre pour que les travaux soient réalisés dans les plus brefs délais.
18h, 18h30, toute l'info sur RCI.
18h07, la distribution de l'eau potable est toujours soumise à de fortes tensions dans plusieurs secteurs de notre île. Les travaux à l'usine de Vivet, une défaillance sur un dessableur de la rivière Capote viennent compliquer une situation de déficit de la ressource, normale en cette période de carême. Et une fois de plus, la ville de Schœlcher paye un lourd tribut face à cette situation. Plusieurs quartiers sont privés d'eau. Raison, ce qui explique que les écoles maternelles Eustache Bertrand, la primaire Le Vendébois et la crèche Patita sont restées fermées aujourd'hui, les conditions sanitaires n'étant pas réunies pour accueillir leurs élèves. Face à une situation répétitive, les habitants sont contraints de s'organiser. Écoutez Serge, il a présenté sa stratégie au micro de Mélissa Grutus.
On a coupé l'eau là, mais là on n'était pas au courant de... qu'on allait couper l'eau. Un ami m'a appelé pour me dire que justement on va couper l'eau et hier soir. Et puis ce matin, je me suis réveillé, j'ai eu le temps de remplir deux seaux lavez-vous. C'est contenant quand il y a les WC, il y a les trucs chez vous là, à chaque fois pour machin, c'est un peu. Lorsqu'il n'y a pas d'eau, c'est contenant à chaque fois. Mais là, le couper, ça reste pas longtemps ici. Pratiquement, on a pris là, mais tant pour peut-être ce soir, on aura d'eau. Avec les réserves, on peut tenir.
Voilà, un Schœlcherois au micro de Mélissa Grutus. Le front de mer du bourg des Trois-Îlets se transforme en village du développement durable. C'est 3 et 4 mai. Les services de la DEAL, la commune et de nombreuses associations rassemblent leurs forces pour sensibiliser dans une manifestation gratuite et ouverte à tous. tests de vélos électriques, explications sur le tri sélectif, présentation d'alternatives aux jetables, autant de découvertes à faire par le biais de stands d'exposition, d'animation et de conférences. Denis Etienne, chargé de mission d'EAL Martinique, était l'invité de notre édition de 13h. On l'écoute au micro de Florent Aussu.
Il y a de nombreuses associations qui sont très actives dans le domaine du développement durable et qui font des choses très concrètes, que ce soit pour ce qui est de l'économie circulaire et du recyclage, de l'agriculture, de l'alimentation, de la mobilité. Donc toutes ces associations ont été mobilisées et seront là pour présenter ce qu'elles font concrètement. Il y aura des présentations de vélos à assistance électrique et les gens pourront faire des essais de vélos. Bon, à la Martinique, il y a à peu près 2 bouteilles plastiques sur 10 qui sont captées aujourd'hui, donc on pourrait faire beaucoup plus. Dans une poubelle, presque tout se recycle. Le métal, tout ce qui est compostable. Donc là, il y a des associations qui vont présenter ce que c'est que le compost. L'Espace Sud aussi va être présent pour expliquer comment réaliser le tri, comment faire le tri, comment se passe la collecte, comment se fait le recyclage. Il y a l'association Zéro Déchet qui sera présente aussi. On aura toutes les informations en un endroit, en un lieu, sur ce qu'il faut faire, sur les bons gestes pour le tri et le recyclage à la Martinique.
Voilà, rendez-vous donc les 3 et 4 mai sur le front de mer du bourg des Trois-Îlets. Le terrain de basket du parc Raphaël Vérou dans les Hauts-de-Dillon transformé en œuvre d'art. Le projet, initié dans le cadre de l'Olympiade culturelle 2024 par l'association Vie ton rêve, a été achevé hier. Résultat de la collaboration entre les habitants du quartier, la fresque réalisée sur le sol a été sélectionnée parmi une centaine de propositions. Deux artistes confirmés se sont associés pour mettre en œuvre le projet, le graffeur Oshi et le Congolais Sincelor Labombe, qui a réalisé pour l'occasion son premier déplacement en Martinique. Un projet qui démontre une fois de plus la force d'une collaboration aboutie. Écoutez la chef de projet de Vie ton rêve, Sahar Datsetan, au micro d'Yves Agelin.
Qu'on a eu des collégiens qui sont venus nous filer un bon coup de rouleau, des anciennes participantes sur nos anciens projets qu'on a pu retrouver. Pour nous, c'est important en fait de revenir à Dillon, c'est pas la première fois qu'on revient ici. Ce qui est important quand on va dans ce genre de territoire, c'est vraiment pour les habitants, c'est pour pouvoir apporter un peu de couleur, de culture, un lieu de vie plus agréable, parce que c'est prouvé justement que l'art-thérapie, la couleur fait du bien à tous. Et c'est vrai qu'à force, au fur et à mesure de nos passages, on a toujours des bons retours, que ce soit les habitants qui viennent nous féliciter en fin de journée. Si on fait tout ça, c'est pour les habitants avant le côté artistique. Nous, on aimait bien ce petit challenge d'allier sport et art dans le cadre de l'appel à projet Olympiade culturelle. Les points communs, les synergies, ça va être vraiment ces valeurs de partage, les valeurs de diversité culturelle. Donc là, on est plutôt sur l'axe JO où tous les pays sont représentés. Les valeurs aussi de création de liens. On est ensemble. C'est pour ça aussi que c'est un plaisir d'inviter un artiste africain parce que le gros slogan là-bas, c'est aussi cet esprit « on est ensemble ». Donc voilà les petites valeurs pour moi qui sont similaires entre le sport et l'art.
Et tout à l'heure, dans À la page, 4 mètres de la BD seront face au micro d'Erika Govindorazo, Aurélie Bambuc avec le deuxième tome de Pacotille, Elsa Brands, l'autrice de Save Me Pity, Jean Dittard pour Les Illuminés, et Baptême, le dessinateur belge qui a repris la suite de Franquin pour le personnage du Marsupulami. Le rendez-vous est tout à l'heure, donc à 18h30. Pour l'instant, il est 18h13, on marque une pause.
Imaginez Jacques, Gunther et Chang. Jacques aime le chic français, Gunther la précision allemande et Chang la performance asiatique. Ils ont 3 voitures différentes, mais quand il s'agit de leurs pièces détachées, les 3 compères se trouvent tous chez Autoquick, l'expert des pièces détachées d'origine pour véhicules français, allemands et asiatiques.
Et en plus de traverser les frontières, Autoquick propose des prix imbattables, comme le jeu de plaquettes de frein avant pour Hyundai Tucson et Kia Sportage. Référence ADG 04 21 79 au prix de 19,99€ TTC toute l'année. Autoquick, l'expert sans concession.
Sac de Rivière Roche.
Vente aux enchères publiques du 4 au 24 mai avec Maître Martin, commissaire-priseur et Martinique Enchères. Affaire à saisir, le 4 mai, mulet, âne, jument, calèche et remorque. Les 15 et 16 mai, matériel professionnel. Le 17 mai, bijoux et montres, idéal pour la fête des mères. Le 18 mai, véhicules, jet ski et accessoires nautiques. Le 24 mai, un tableau de maître, vente en duplex sur Internet. Catalogue disponible sur martinique-enchères avec un S.com et sur nos réseaux sociaux.
Leclerc.
Vos Leclerc défendent encore et toujours vos super pouvoirs d'achat. Jusqu'au 12 mai, profitez du bidon de 1 litre 9 de lessive liquide Bonux qui passe exceptionnellement de 12,99€ à 9,74€, soit moins 25% de remise immédiate. Ou encore du bidon de 1 litre 7 d'assouplissant Soupline concentré 3D à seulement 5,90€. Pas mal, non? Jusqu'au 12 mai, retrouvez le choix, la qualité et le prix dans vos Leclerc Galeria, place d'Armes et Rond-Point.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc.
Mercedes-Benz.
Je vous en prie, installez-vous, je vais prendre vos mesures. Alors la longueur, très bien. La largeur, parfait. Et la hauteur, excellent. Pour la matière, on part sur du cuir? Et pour les finitions, plutôt sport ou plutôt confort?
Rendez-vous chez votre distributeur Mercedes à côté de la Galeria pour les ventes privées taillées sur mesure les 3 et 4 mai 2024. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
18h.
18h.
Le journal du soir sur RCI.
Avec Dominique Giraud.
18h15, Carla Bruni, entendue pendant près de 3 heures aujourd'hui par l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. L'ex-première dame est suspecte dans l'enquête sur la rétractation en 2020 de Ziad Takieddine, un intermédiaire qui accusait son époux Nicolas Sarkozy d'avoir financé sa campagne présidentielle 2007 avec des fonds en provenance de Libye. Au stade actuel de l'enquête, aucune décision n'a été prise concernant d'éventuelles poursuites. Alors quels ont été les thèmes évoqués lors de cette audition? Élément de réponse avec Thomas Proutot.
Eh bien, de la soudaine rétractation en novembre 2020 d'un témoin clé de l'affaire libyenne, le sulfureux franco-libanais Ziad Takieddine, et cela dans deux interviews écrites et télévisées depuis le Liban. Nicolas Sarkozy n'a jamais touché d'argent de Kadhafi pour sa campagne, affirme alors l'homme d'affaires, à l'inverse de ce qu'il a dit à la justice pendant des années. Très vite, les juges soupçonnent l'interview d'avoir été acheté, monnayé par un aéropage de proches de l'ancien chef de l'État, afin de le dédouaner. 9 personnes, dont Nicolas Sarkozy, sont déjà mis en examen dans ce dossier.
En quoi ça concerne Carla Bruni?
Les juges d'instruction s'interrogent sur son rôle potentiel, notamment parce qu'au centre du montage, il y a Mimi Marchand, reine de la presse People et amie de la chanteuse. Or, en octobre 2020, en plein Covid, Carla Bruni a facilité l'obtention de tests PCR pour Mimi Marchand et l'équipe alors en partance pour le Liban, justement pour réaliser l'interview de Takieddine. Quelques semaines plus tard, elle apparaît également dans un échange de contacts le jour même où un transfert de fonds à plusieurs bandes est organisé vers le même Takieddine. Nicolas Sarkozy, dans un interrogatoire que nous avons pu consulter, conteste toute implication de son épouse.
Et maintenant, Thomas, c'est quoi la suite?
Aucune poursuite à ce stade, vous le disiez, Carla Bruni est ressortie libre. Les juges peuvent soit en rester là, soit convoquer l'épouse de l'ancien chef de l'État en vue d'une mise en examen, ou bien d'un placement sous le statut plus favorable de témoin assisté, ce qui lui éviterait un éventuel procès.
Les précisions de Thomas Proutot. L'Agence nationale de sécurité sanitaire recommande la mise en place d'une législation sur le bien-être des animaux d'élevage. Dans un rapport rendu public aujourd'hui, l'ANSES propose d'informer le consommateur sur les conditions de production de la viande ou des œufs, ainsi que du lait. L'organisme recommande une harmonisation au niveau européen en proposant une classification à 5 niveaux. Virginie Garin.
Aujourd'hui, quand vous achetez de la viande, des œufs ou des produits laitiers, vous n'avez aucune garantie précise sur le bien-être des animaux. Donc l'ANSES propose des critères qui permettraient de l'écrire sur l'étiquette, un peu comme le Nutri-Score qui vous dit si le produit est sucré, salé ou gras. Et bien là, il y aurait une autre lettre de A à E pour vous indiquer si la poule, la vache ou le cochon ont été élevés dans de bonnes conditions. Si la poule, par exemple, a pu déployer ses ailes, se percher. Si l'animal a été aussi bien transporté, si toutes les règles de pose, de température dans le camion ont bien été respectées. Et c'est important, des garanties sur l'abattage, car aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc ce serait une vraie avancée. L'Europe travaille sur le sujet. Il faut maintenant que les filières et le gouvernement se saisissent du projet et utilisent ces nouveaux critères scientifiques pour mettre au point un label attendu par beaucoup de consommateurs.
Guillaume Meurice, suspendu par Radio France dans l'attente d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. L'humoriste de France Inter a réitéré dimanche ses propos polémiques tenus fin octobre sur Benjamin Netanyahou, le qualifiant de, je cite, « nazi sans prépuce ». Une polémique qui survient alors que les actions en soutien à la Palestine se multiplient sur les campus universitaires français, des mobilisations surveillées de très près par le gouvernement. Une quinquagénaire est morte, emportée par une coulée de boue la nuit dernière dans l'Aisne. De violents orages ont entraîné des dégâts en Bourgogne et des perturbations du trafic aérien. Dans la commune de Courmel, les 1850 habitants ont vu débouler dans leur rue un torrent d'eau et des tonnes de boue qui ont envahi notamment la maison de la victime. Son époux a pu être sauvé de justesse. Simon Marseille s'est rendu sur place.
C'est la faute de plusieurs facteurs. Un, les sols sont gorgés d'eau. Ici, après les pluies intenses de l'hiver dernier, ils n'absorbent donc plus les nouvelles pluies. Deux, le terrain est favorable à un écoulement puisque derrière la maison, il y a une colline. Troisième élément. Enfin, sur cette colline, aucune barrière naturelle, c'est-à-dire pas d'arbres, pas de haies, pas de broussailles qui pourraient retenir la boue ou au moins la ralentir. Résultat, hier soir, vers minuit, elle se ferait un chemin dans un petit ravin, arrive au niveau du village, elle perce trois énormes trou dans un muret en pierre, traverse un jardin avant de rejoindre la maison des sinistrés. Alors, certains habitants ici, des paysans, réclament au moins la construction d'une bassine de rétention en amont du village, bassine qui permettrait peut-être d'enrayer le ruissellement.
Et ces orages de mercredi soir ont empêché une quarantaine de vols d'atterrir à Paris-Orly ainsi qu'à Roissy-Charles de Gaulle. Les avions ont dû être déroutés, notamment vers Nantes, Lyon et même vers Bruxelles et Liège en Belgique. Le Kenya et la Tanzanie se préparent, eux, à l'arrivée du cyclone Idaya, un phénomène inquiétant après les pluies torrentielles qui ont dévasté l'Afrique de l'Est, provoquant déjà la mort de plus de 350 personnes. 165 000 personnes ont déjà été déplacées, 90 sont toujours portées disparues. Le gouvernement du Kenya exhorte aujourd'hui la population à demeurer en alerte. On termine avec le quintet du jour. Aujourd'hui, il s'est couru à Chantilly. Pour l'emporter, il fallait jouer 10, 13, 3, 12 et 7. Demain, c'est à l'hippodrome de Paris-Vincennes que se disputera le prix Bettina avec 16 partants qui devront parcourir 2100 mètres après le départ en nocturne à 14h15. Marc Cadas vous propose de jouer 16, As, 2, 12, 4, 6, 3, 14. Je répète cette formule. 16, As, 2, 12, 4, 6, 3, 14. Pour le 2 sur 4, Marc vous propose l'As et le 16. Et puis notez bien que pour ce prix Bettina, le numéro 9 est non partant. 18h21 sur RCI, c'est la fin de notre édition. 18h30 à la page.
Merci Dominique et on se retrouve à 19h pour le dernier flash de la journée.
L'info continue sur www.rci.fm. RCI, c'est la vie. Êtes-vous prêt pour un voyage musical hors du commun ? De la Caraïbe à l'Amérique, en passant par l'Afrique ou l'Asie, Max vous emmène en voyage à la découverte de sonorités du monde entier. Musicomax. Ce soir, 21h-23h, sur RCI. La musique n'a pas de frontières. La ligne Alerte Info sur RCI. Vous souhaitez nous contacter, nous communiquer une information? Composez le 63 31 31. Soyez les contributeurs de la rédaction d'RCI. 0596 63 31 31. La ligne Alerte Info de RCI. 63 31 31.
Tout bonnement, moins certains nous fait
toujours à l'heure avec Yop.
Yop. Yop. Ne renonce jamais.
Vous écoutez RCI, il est 18h30.
Yop sort un nouveau parfum, goût exquis, goût qui revient. Douce saveur du raisin qui reviennent comme un refrain.
Yop, goût grappette, le goût américain des années 50 revient en édition limitée. Yop, raisin grappette, encore un Yop qui me tente.
Yop, Yop. Ne renonce jamais.
Pour votre santé, bougez plus. Mangezbouger.fr.
RCI, c'est la vie. RCI, c'est la vie.
À la page, le magazine littéraire de RCI, présenté par Erika Govindorazo.
Et tout de suite, on retrouve Erika Govindorazo pour votre rendez-vous littéraire à la page. Bonsoir Erika.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans À la page, votre rendez-vous littéraire diffusé tous les jeudis à 18h30 sur RCI. Une émission qui a à cœur de vous faire aimer la lecture, mais aussi l'univers du livre. Et l'univers du livre, c'est aussi plonger dans un monde où l'imagination et l'histoire, avec un grand H, prennent vie à travers des illustrations vibrantes et des récits captivants. Ce soir, à la page, je vous emmène explorer la créativité effervescente de la bande dessinée. Nous avons avec nous ce soir quatre maîtres de la BD, présents en Martinique dans le cadre du Festival de la BD de Trinité, organisé par Casabulle. Avec nous en studio, Aurélie Bambuc, qui nous revient avec le deuxième tome de Pacotille. Bonsoir.
Bonsoir.
Également Elsa Brandt, autrice de Save Me Pity. Bonsoir.
Bonsoir.
Ben ça va, très bien votre voix. Jean Dittard qui a écrit récemment Les Illuminés, bonsoir.
Bonsoir.
Et Baptême qui nous fait aussi l'honneur d'être avec nous, il est l'auteur notamment du Marsupilami, bonsoir.
Bonsoir.
Au programme de ce soir, le coup de fil au libraire nous emmènera à la rencontre de Séverine, blogueuse littéraire, elle travaille à la FNAC, et c'est une série en trois tomes qu'elle a choisi de nous présenter. Voilà pour le menu de cette émission, vous êtes sur RCI et vous écoutez À la page.
À la page, le magazine littéraire de RCI, présenté par Erika Govindorazo.
On va démarrer par un petit tour d'horizon pour planter le décor des différents univers. On commence avec vous, Aurélie Bambuc, de quoi s'agit-il dans ce tome 2 de Pacotille, l'enfant esclave ?
Eh bien, on a quitté Pacotille dans le tome 1 qui s'enfuyait avec son ami Cali vers la Dominique avec d'autres esclaves en fuite. Et on va les retrouver sur l'île de la Dominique qui était un peu un îlot de paix pendant un certain temps. En tout cas, parce qu'à force de se disputer cette île, on a laissé tranquille les Caraïbes qui y vivaient. Et donc, on va découvrir Pacotille avec son ami Cali qui va essayer de s'intégrer aux autres communautés indiennes sur place, qui va rencontrer un missionnaire qui va lui apprendre à lire. Et elle a toujours en tête le fait qu'elle a été séparée de sa mère. Elle a envie de la retrouver.
C'est vrai que c'est dans la fin du tome, c'est ce qu'on se disait. Il y aura peut-être une suite. Et oui. On y est.
Oui, quand même.
On change d'époque avec Elsa Brandt, c'est ce titre, Save Me Pity.
Alors, Save Me Pity, c'est une série que j'ai dessinée au format manga et qui va raconter les histoires de la jeune prêtresse Pity qui va, pour avoir eu le malheur de fâcher le dieu Apollon, va recevoir la même malédiction que la princesse Cassandre de la guerre de Troie. C'est-à-dire que maintenant, Pity va pouvoir prédire l'avenir, sauf qu'elle ne va prédire que des catastrophes. Et surtout, personne ne va jamais la croire. Juste après ça, il y a un poulet qui arrive et qui lui dit « Bah écoute, Pity, j'ai encore une fois eu un fils hors mariage et ma femme l'a appris et elle lui en veut un petit peu. Donc j'ai peur que mon fils ne survive pas, d'autant qu'il veut devenir un héros et il se confronte à peu près tous les monstres et les héros que l'on trouve dans la Grèce antique. »
Dans la Grèce antique.
Et donc évidemment, le poulet n'est pas un simple poulet, c'est un dieu qui veut passer incognito. Et Pity va accompagner donc le fils caché du poulet à travers la Grèce antique dans la mythologie.
On poursuit notre voyage dans le temps avec Jean Dittard et Les Illuminés.
Alors, Les Illuminés, c'est un récit autour de trois poètes, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine et Germain Nouveau, qui sont trois poètes réunis autour d'un manuscrit, celui des Illuminations, donc le dernier recueil de Rimbaud, le recueil un peu testamentaire, qui en fait a circulé de main en main. C'est un récit où on suit un peu l'errance de ce manuscrit et la trajectoire de ces trois personnalités un peu hors normes.
Enfin, baptême, que dire à ceux qui étaient à ce stade toute leur vie dans une grotte et qui ignorent qui est le marsupilami ?
Alors, bon, pour le nouvel album, moi je reste en Palombie. Le marsupilami, c'est un petit personnage jaune à points noirs, muni d'une longue queue, 7,50 m. Voilà, vous voulez d'autres informations ? C'est un personnage qui a été évidemment créé par le génial André Franquin et qui m'a été confié en 87 pour faire les albums. Et je suis en train de dessiner le 34e tome.
Wow. Ouais. Aurélie Bambuc, le tome 2 était attendu un peu partout en France, mais particulièrement en Martinique avec ce festival itinérant. Vous avez eu l'occasion de côtoyer des étudiants, le public martiniquais plus généralement. Comment est-ce que votre BD est reçue ?
Comme une case qu'on remplit un vide, on a rempli un vide en fait. Je me rends compte de ça avec la communauté enseignante, notamment raconter une histoire de la Martinique en bande dessinée à travers un personnage. Finalement, on n'a pas d'autres bandes dessinées qui parlent ainsi de la Martinique à cette période-là. Donc, ça intéresse d'autant plus la communauté enseignante.
Justement, vous êtes journaliste, documentariste. Pourquoi vous avez choisi ce média-là, la bande dessinée, pour raconter cette histoire de l'esclavage en Martinique ?
Parce que je suis aussi une maman qui a à cœur d'éloigner ses enfants des écrans et qui a envie de transmettre son histoire, une partie de leur histoire. Et donc voilà, la bande dessinée, c'est le meilleur média pour ça. C'est un média ludique, c'est un média qui reste attractif pour même cette génération qui adore les écrans. Et donc voilà, pour toutes ces raisons-là.
Le personnage principal, c'est Pacotille, une petite fille esclave. Pourquoi avoir voulu que l'on reçoive cette histoire tragique à travers les yeux d'un enfant ?
Pour raconter cette histoire déjà à hauteur d'enfant, c'est la première fois qu'on raconte une histoire de l'esclavage à hauteur d'enfant. Il existe d'autres bandes dessinées qui racontent une histoire de l'esclavage, mais c'est pour les grands, vraiment, comme les Passagers du Vent. Là, c'était pour raconter vraiment que cette tragique histoire a concerné aussi les enfants. Et du coup, permettre à une génération de comprendre que ça touche vraiment tout le monde, que ça a touché vraiment tout le monde et que ça touche encore aujourd'hui. L'esclavage reste malheureusement un fléau encore mondial, mais voilà, pour que les enfants puissent s'identifier vraiment à cette petite fille.
On va revenir sur la frontière entre le réel et l'imaginaire. Aurélie, est-ce que vos personnages ont existé vraiment ?
Alors, le personnage de Pacotille n'a pas existé, les enfants esclaves ont existé. Nous, on a imaginé Pacotille et ses amis Jean et Cali, mais ce sont des personnages qu'on retrouve qui ont existé. Oui, il y a eu des Indiens, il y a eu des engagés blancs, mais il fallait l'aspect fictionnel pour emporter le lecteur. Mais par contre, on s'est nourri de l'histoire. Moi, je me suis fait aider par des historiens. La Fondation
précise.
Pour la mémoire de l'esclavage également a eu un regard sur la bande dessinée, parce que je tenais à ce que ce soit ancré dans une réalité historique pour que justement ça devienne un outil aussi pour les enseignants. Il fallait raconter une histoire la plus précise possible, et j'ai également accompagné ça d'un cahier pédagogique pour expliquer tout un contexte également aux enfants.
Jean Dittard, comment est-ce qu'on raconte la poésie en BD ?
Alors, moi ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce projet, au-delà de mettre en scène ces personnalités de poètes qui sont, pour deux d'entre eux en tout cas, bien connus et assez fascinants, c'était de le faire justement avec la poésie que permet la bande dessinée, dans le sens où j'ai proposé un dispositif assez singulier où il y a plusieurs récits qui se déroulent en simultané au même moment. C'est un peu peut-être difficile à expliquer à la radio, mais il se trouve qu'il y a une sorte de bande narrative dans la partie haute de l'image qui correspond au récit, par exemple, de deux des personnages, et au même moment, un troisième vit autre chose ailleurs, et donc là, on a la partie basse de la page qui concerne le récit de la troisième personne. Et ça suscite une forme de lecture qui n'est plus seulement linéaire, mais qui peut être assez ouverte en fonction des lecteurs ou des lectrices. Il y a plusieurs façons de lire ce livre, soit par double page, soit par séquence de chapitres où on va lire que la partie d'en haut, puis on va revenir. Et en fait, l'idée, c'était de chercher des effets de résonance entre la partie supérieure, la partie inférieure, par les images, par le mot parfois, par les situations. C'est comme des rimes en poésie, en quelque sorte. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a plu dans ces histoires justement croisées de ces différents poètes ?
Eh bien, c'était, je crois, le challenge de la narration que je viens de vous expliquer. Mmh. Quoi. C'était d'essayer de produire un récit qui nous entraîne dans un rythme de lecture et d'une expérience de lecture en fait vraiment singulière. L'autre aspect qui m'a beaucoup intéressé, en dehors aussi de leur trajectoire personnelle et de leur caractère, de leur tempérament qu'on essaye de décrire, puisque je dis « on » parce que je l'ai fait aussi avec un co-scénariste, oui, qui est Laurent-Frédéric Bollet. Eh bien, l'autre aspect, c'est la dimension picturale que j'ai voulu donner à ces images, puisque je me suis inspiré des peintres impressionnistes de la même génération que ces poètes, et aussi de la photographie de ce 19e siècle, avec des tons un peu des monochromes, en fait, des images monochromes.
Baptême, aujourd'hui, le marché français de la BD représente environ 24% du secteur total de l'édition, 35% en Belgique. Le double par rapport à il y a 10 ans, autrefois presque considéré comme un sous-genre de la littérature. Il y a eu ensuite l'âge d'or que vous avez connu, et oui, puis les bouleversements liés au numérique. Quelle analyse vous faites aujourd'hui de l'évolution de ce marché de la BD ?
Là, vous me posez une colle parce que la bande dessinée que je pratique, oui, n'est pas affectée par la numérisation, etc. Déjà, à l'époque où j'ai signé mon premier contrat, donc ça remonte à 87, il était déjà prévu cet aspect-là. J'ai bien vu que les éditeurs avaient anticipé le problème, enfin le problème, la chose en tous les cas.
Comment ?
En nous faisant signer des clauses où on laissait tomber nos droits. Effectivement, on était déjà un petit peu aidés par certains avocats, donc j'avais fait relire mon contrat, mais on m'avait bien laissé supposer qu'on n'allait pas être inquiété trop rapidement par cet aspect-là du problème. Et effectivement, aujourd'hui, ça ne fonctionne toujours pas. Et je pense que la bande dessinée informatisée ou sur tablette ne fonctionnera que lorsque ces fameuses tablettes ou cette fameuse technique apportera un supplément, quelque chose de plus que l'album. Donc voilà mon analyse, j'ai pas passé mon temps, j'ai pas beaucoup réfléchi sur le problème. Mais les quelques fois où on me pose la question, c'est la seule chose que j'ai pu faire, la seule réponse que j'ai pu trouver. Je ne pense pas que nous ayons à redouter cet aspect-là, dans l'immédiat en tous les cas.
Quelqu'un a un autre avis ?
Oui, je pense que de toute façon, en Occident, on reste très attaché au livre qui est un trésor, on le chérit, on y fait très attention. Dans certains pays d'Asie, comme le Japon, la Corée, ils n'ont pas cet attachement au livre et ils ont plus de facilité à lire leurs histoires sur tablette, au format par exemple Webtoon. Mais il faut comprendre que d'un point de vue ne serait-ce que pratique, ils ne peuvent pas avoir ils n'ont pas la place de garder les livres. Donc, même s'ils achètent des livres, ils s'en débarrassent très rapidement. D'où le fait de se tourner davantage sur les écrans. Mais je pense que très sincèrement, en Occident, on reste rattaché aux livres très longtemps.
Aux livres et aux dessins de manière plus classique. Ouais. Baptême, vous êtes l'auteur d'une BD iconique, Le Marsupilami. Comment est-ce qu'on maintient la fraîcheur d'une série classique comme la vôtre au fil des années, tout en honorant, on va dire, son héritage?
En virant régulièrement les scénaristes. Non, c'est un jour, on m'a posé la question, on m'a demandé, mais pourquoi vous vous débarrassez aussi régulièrement de vos scénaristes? Moi, je ne me suis jamais débarrassé de qui que ce soit. Mon seul but a toujours été d'être à la hauteur de cette espèce de mission incroyable qu'on m'avait confiée. Et puis, petit à petit, d'abord, petite précision, pendant plusieurs années, j'ai eu la chance d'avoir le regard, les conseils avertis du maître André Franquin, m'a quand même... Oui. Je suis rentré par la grande porte, donc j'ai démarré dans ce métier grâce au Marsupilami et à André Franquin qui m'a vraiment, dont je vais tenir le bas du pantalon. Donc, alors, si on réussit à maintenir une certaine fraîcheur, ben je vous en remercie si vous voyez les choses comme ça. Personnellement, je pense que moi, je ne m'en suis jamais lassé, vraiment. On me le demande régulièrement, on n'avait pas peur un peu de dessiner le Marsupilami, ce personnage. Jamais, parce que ce personnage d'abord évolue dans une jungle qui elle-même est un personnage à part entière et qui est sans cesse renouvelable et renouvelé. Et puis à chaque épisode, il y a de nouveaux personnages, donc je m'en suis jamais lassé. Même si André Franquin m'a dit un jour, tu verras, le personnage, un jour t'en auras fait le tour, il va te lasser. Eh bien non, moi ça ne fait pas partie de mes gènes, moi je ne m'en lasse pas parce que j'aime le dessin avant tout. J'aime raconter des histoires, je suis déjà tellement content d'être là aujourd'hui, grâce au Marsupilami, mais moi tout ce que je demandais c'était de dessiner. J'apprends un jour qu'on compte me payer pour ce genre de choses. C'est encore mieux. Mais c'est en plus André Franquin, le dessinateur que j'admirais par-dessus tout, qui me propose de dessiner ce personnage. Vous savez, quand je vais dans les écoles ou dans certaines bibliothèques pour faire des animations, pour bien faire comprendre ce que je suis en train de vous dire, je demande si, parmi les enfants ou les plus jeunes, il y a quelqu'un qui aime jouer au football ici, ou quelqu'un qui aime un chanteur particulier. Mbappé. Essayez d'imaginer que Mbappé te téléphone et te propose non seulement d'aller faire un match avec lui, mais de faire partie de son équipe. Ben, c'est ce qui m'est arrivé avec André Franquin, moi. Donc déjà, c'est extraordinaire. Mon état d'esprit est que j'ai envie de dessiner tout le temps, tous les jours et à toute heure, et avec un personnage que j'admire depuis toujours. Et ce n'est pas une reprise, comme les autres, en ce sens que je n'avais pas un cahier des charges énorme. Mon seul cahier des charges, c'était le Nid des Marsupilamis. C'est un album qui fait partie de la série de Spirou et Fantasio.
Et donc une grande liberté.
Totale, et même graphiquement, il n'y avait rien qui m'était imposé. C'est moi qui me suis auto-censuré, c'est moi qui admirais le travail d'André Franquin dans les années 70. Et c'est un petit peu ce Marsupilami-là qui m'a été confié. Et puis avec André Franquin qui me disait, mais vas-y, fais ce que tu veux. On lui avait demandé de faire les couvertures des premiers albums, mais très rapidement. Déjà, dès la deuxième couverture, il m'a dit, je veux bien faire la couverture parce que ton éditeur me le demande. Mais le petit panda, le personnage que tu as créé, c'est toi qui vas le dessiner. Et dès le troisième album, il m'a dit, non, c'est ta série, c'est toi. Voilà, donc c'est... Alors, maintenant, maintenir la fraîcheur, c'est se renouveler, effectivement. C'est pas facile, hein.
Ouais.
À partir de l'album 19, Stéphane Coleman a débarqué dans l'aventure et il a amené une autre dimension à la série. Une part de chamanisme, c'est un pas que je n'aurais jamais osé franchir moi-même parce que je pensais qu'André Franquin était très attaché au côté très réaliste, bien qu'il soit dans la fantaisie absolue. Il voulait que tout soit crédible. Amener la sorcellerie, et si j'ai fait appel à Stéphane Coleman, c'est parce que j'avais eu l'idée de faire neiger sur la jungle, sur la Palombie, et donc je voyais directement les gags que ça pouvait amener, le rio gelé, les piranhas complètement qui ne savent pas
sortir
de plat, pris dans le lac, le jaguar qui dérape, enfin bref, il y avait une foultitude de gags qui se pointaient à l'horizon, mais comment faire neiger sur la jungle? Et alors, j'ai tout essayé, j'ai tout imaginé, je retombais toujours dans des trucs un peu trop scientifiques, un peu trop réalistes. Et Stéphane Coleman, qui travaillait derrière moi, parce qu'on était en atelier à l'époque, m'a dit, tu veux que j'essaye, moi? J'ai dit, vas-y seulement. Et il a amené cette part de chamanisme dont on ne s'est plus jamais véritablement débarrassé. On a amené des personnages un peu fantastiques, on les a fait voyager dans le temps. Voilà, j'espère que tout ça fait que ça nous aide à entretenir cette fameuse fraîcheur que vous évoquiez.
Tout à fait. Elsa Brandt, comment est-ce qu'on arrive à s'imposer dans l'univers du manga, j'ai envie de dire, quand on n'est pas japonaise?
Alors, m'imposer, je ne sais pas si je me suis imposée, mais c'est vrai que quand en France, on n'est pas beaucoup, on n'est pas très nombreux à être des auteurs de manga, et quand j'ai débuté, donc en 2014, on était vraiment encore moins nombreux, on se comptait sur les doigts de deux mains, et maintenant ça s'est un petit peu démocratisé, on est de plus en plus nombreux. Je me suis pas posé la question comment je vais réussir à faire mieux que les autres, non, je me suis surtout dit j'ai envie de raconter ces histoires parce qu'elles me font rire, parce que je trouve que ça manque au paysage, et je pense que je peux apporter ma petite pierre, mon petit humour à moi, ma façon de voir les choses. Et donc voilà, je me suis prise passionnément pour mes histoires, et je me suis dit que si déjà moi cela me fait rire, c'est déjà une personne de gagner. Donc, et je croise les doigts pour que ça fasse rire d'autres personnes.
Et pourquoi la Grèce antique?
Alors c'est un peu particulier, comme en fait j'ai commencé au départ par la bande dessinée en 2002. J'ai d'abord été coloriste. Ensuite, en 2006, j'ai également été dessinatrice, et donc de bande dessinée franco-belge. Et Save Me Pity, c'est mon premier manga en tant que dessinatrice, mais également en tant que scénariste. Et donc, je me suis dit, à faire un scénario, autant utiliser un sujet que je maîtrise pas mal. Et j'étais une très grande fan de mythologie depuis mes 9 ans, je pense. Donc, je connaissais bien les mythes, les dieux et les héros. Donc, voilà pourquoi.
Ok. C'est une question maintenant pour vous, Elsa, et aussi Aurélie. Est-ce que c'est plus difficile de s'imposer, d'exister dans l'univers de la BD quand on est une femme?
Très sincèrement, j'ai jamais été un homme, donc je ne peux pas faire la comparaison.
Est-ce qu'il y a des difficultés, des défis particuliers?
Moi, j'ai pas ce. Alors, moi, du coup, je débute hein, dans ce monde-là. Je viens du journalisme, mais j'ai rencontré Corbeyran et Olivier Berlion, avec lesquels je travaille sur cette bande dessinée sur Pacotille. Je me suis jamais posé la question de mon genre par rapport à eux. Pour le coup, je me rends bien compte dans le festival qui nous invite qu'on n'est pas nombreuses, mais voilà, c'est juste un constat. Maintenant, je pense que c'est des choses qui sont en train d'évoluer, mais en tout cas, je trouve pas ça problématique. Enfin voilà, j'ai pas l'impression d'être dans un monde de machos qui ferme la porte aux femmes, pas du tout quoi.
Tant mieux. C'est maintenant le moment de prendre notre téléphone pour retrouver Séverine au bout du fil. C'est l'heure du coup de cœur du libraire.
Bonsoir Erika, bonsoir chers éditeurs de RCI. Je vous présente, c'est mon coup de cœur BD. Alors c'est l'une des rares BD que j'ai lues. C'est une trilogie, donc c'est Elle de Kid Toussaint, qui présente en fait une jeune fille qui est atteinte de TDI, donc le trouble dissociatif de l'identité. Et en fait, elle a plusieurs personnalités, et chacune de ces personnalités, en fait, est caractérisée par une couleur de cheveux et un caractère différent. Et selon ce qu'elle vit, par exemple, si elle doit faire une présentation devant sa classe, elle aura la personnalité la plus entreprenante, courageuse, et qui n'aura aucun mal à se présenter, en fait. C'est dans le tome 1, justement, elle arrive dans un nouveau lycée, elle se fait de nouveaux amis, et elle cherche, en fait, à savoir qui elle est, parce qu'elle découvre, en fait, qu'elle a été adoptée. Dans le tome 2, suite à ce qu'elle aura découvert dans le premier tome, elle aura une sorte de choc qui fera que l'une de ses personnalités va prendre le contrôle sur toutes les autres. Et dans le tome 3, il y aura une sorte de cheminement interne où toutes ces personnalités vont chercher à savoir exactement pourquoi chaque personnalité a un monde spécifique, une personnalité bien spécifique, afin qu'elle soit plus à l'aise. Et voilà, c'est tout pour moi. Bonne soirée à tous et à toutes.
Merci Séverine. Jean Dittard, vous êtes scénariste et illustrateur. Comment est-ce que vous équilibrez la narration visuelle et les dialogues de vos BD?
Je fais finalement le travail que le même travail que quand il y a des collaborations entre un scénariste et un dessinateur.
Avec vous-même.
Avec moi-même, voilà. Je collabore avec moi-même et ça se passe plutôt pas mal. À ceci près, peut-être que je fais un travail d'écriture moins poussé. Uniquement dans l'écriture au préalable, c'est plutôt dans l'étape du storyboard, donc du découpage, au moment où en croquis les choses se mettent en place et ça devient déjà de la bande dessinée. Par exemple, mes dialogues, je les conçois plutôt à ce moment-là du travail, pas tant que ça dans la phase de scénario, et donc ça devient déjà quelque chose de très mêlé entre l'image et le texte. C'est beaucoup le rythme qui se cale dans ce moment-là aussi, de case en case. Et c'est un ensemble qui est un peu difficile à démêler en réalité, je trouve.
Ici en Martinique, il y a finalement peu de BD d'auteurs antillais. Je parle sous le contrôle de Jean-Claude Malo, vous me direz si je me trompe, de la librairie Casabulle qui est avec nous. Si vous deviez citer en tant qu'auteur des éléments essentiels pour susciter l'engagement du lecteur, en clair, c'est quoi une bonne BD?
Ouh là là, c'est une question... J'aurais du mal à y répondre.
Pour vous?
Je lis des choses tellement diverses aussi. Honnêtement, je ne saurais pas quoi répondre à ça. C'est aussi tellement dépendant des sensibilités de chacun. Donc,
c'est pour ça que je pose la question à chacun de vous.
Il n'y a pas de recette, vraiment.
Baptême?
Non, je répondrai exactement la même chose. D'autant plus que les goûts évoluent. Il y a 20 ans, je vous aurais répondu une bonne bande dessinée, c'est d'abord un bon scénario avec un bon dessin. Et puis je vous aurais répondu, à l'époque peut-être qu'on m'aurait mis un roman graphique entre les mains avec un dessin un peu approximatif, j'aurais pas pris la peine d'approfondir et de découvrir un excellent scénario derrière. Et aujourd'hui c'est tout le contraire, j'ai eu la chance de faire partie de jury, donc quand on est membre d'un jury, on vous confie plein de bandes dessinées que j'aurais peut-être pas lues, qui me seraient peut-être tombées des mains, et puis je me suis fait un peu forcé, puis j'ai découvert des bandes dessinées extraordinaires, et aujourd'hui mon point de vue a totalement changé. Effectivement, et puis le lectorat a évolué, il faudrait peut-être leur poser la question à eux.
Ce soir, c'est à vous que je pose la question, Aurélie.
Moi, j'avoue que c'est le dessin en premier. Pour moi, une bande dessinée, je suis attirée quand je vais dans une librairie et que je regarde les couvertures et que je feuillette un peu les bandes dessinées, c'est d'abord le dessin. C'est le dessin qui m'attire et ensuite je découvre l'histoire. Mais voilà, pour moi, une bonne bande dessinée, c'est un beau dessin.
Elsa.
Moi, mon éditeur m'a expliqué que effectivement le dessin attire en premier, mais que si le scénario ne suit pas, les gens ne vont pas acheter le tome 2. Donc, moi personnellement, une bonne bande dessinée, c'est tellement subjectif, mais comme ce que mes copains ont répondu, en fait, ça va dépendre de mon état d'esprit, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai besoin de lire. Est-ce que j'ai besoin de lire quelque chose qui va être plus profond ou plus léger, quelque chose plus dans l'historique ou dans le futuriste, ça dépend vraiment de ce que je traverse. Donc je pense pas qu'il y ait vraiment de recette de la bonne bande dessinée. C'est vraiment à chacun qui va trouver ce qui va le toucher personnellement. Mmh. Voilà.
On arrive tout doucement à la fin de l'émission. Je vous propose de terminer cette émission en musique. J'ai choisi de vous proposer un titre d'un groupe emblématique de la ville de Trinité, ville qui accueille le festival où vous allez passer un petit moment. Ce groupe mythique est né dans les années 70 pour combler, à l'époque, un manque d'orchestre pendant les vacances lors de fêtes de quartier. 50 ans après, le titre que vous allez entendre est encore un hymne à la vie aux Antilles, pour les Martiniquais, mais aussi au-delà de nos frontières. On écoute La Divinité de la Perfecta sur RCI. C'était À la page, votre émission littéraire. Merci de votre écoute.
Festival, le rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la danse, du fitness et de la culture caribéenne. Soyez-y. Inédit en Martinique, le Caribéa Fit Festival débarque le dimanche 5 mai pour une journée de pure énergie et de rythmes enflammés. Cadeaux et surprises, préparez-vous à être gâtés. Une expérience unique, jamais vue en Martinique, avec les meilleurs coachs, danseurs et DJ caribéens et internationaux. Réservez dès maintenant votre place sur bizou.com et rejoignez le Caribéa Fit Festival sur les réseaux sociaux. Le Caribéa Fit Festival, un événement sponsorisé par On Air Fitness Le Lamentin, McDonald's, I Love Mobile, Centre Auto, UFR, Sicantilly et RCI.
Carrefour, chers clients. Suite aux négociations commerciales menées avec nos fournisseurs, à la baisse du coût de certaines matières premières et à notre volonté de vous proposer les meilleurs prix, nous avons baissé les prix permanents de plus de 1000 produits alimentaires d'hygiène et d'entretien. Par exemple, le kilo de riz thaï parfumé Chuline est maintenant à 2,89€ au lieu de 3,09€, soit une baisse de 6%.
Le détail et les conditions de cette baisse de prix sont disponibles sur carrefour-martinique.com.
Carrefour, j'ai choisi.
C'est le mois de l'utilitaire chez AutoGM. Infatigable dans l'effort. Découvrez la gamme de véhicules utilitaires Volkswagen. Jusqu'au 31 mai, bénéficiez de nos offres conçues pour les pros, comme le Volkswagen Caddy à partir de 19 990€ et le Volkswagen Crafter à partir de 33 990€. Fonctionnel, adaptable et polyvalent, les utilitaires Volkswagen vous assistent au quotidien. Les vendredis 3 et samedi 4 mai, journée spéciale pro chez Volkswagen Martinique.
AutoGM, la garantie des grandes marques.
Pensez à covoiturer, se déplacer moins pollué. Voir conditions en concession.
Soyez à l'heure avec Blandin. Blandin, zone industrielle des Mangles au Lamentin. Soyez à l'heure pour assister aux Jeux Olympiques grâce au jeu des bouchons jaunes Coca-Cola, Fanta et Sprite.
Très belle soirée sur RCI, il est 19h.
Blandin vous propose des offres exceptionnelles sur la climatisation. Venez découvrir les offres de la marque Colibri, comme le climatiseur Colibri 9000 BTU à 2+, à 399€, et le 12000 BTU à 2+, à 499€. Les bonnes affaires se passent toujours chez Blandin.
Zone industrielle Les Mangles à Cajou au Lamentin.
Un séjour exclusif à Paris pour assister aux Jeux Olympiques 2024, ça nous fait tous rêver. Alors on tente sa chance